Hachem accorde sa grâce. Chers amis, Hachem alechem tihyu, l'yorech yamim tovim yishani yanehemim. Ezenu b'shem Adonai yoseh shamayim v'aretz. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Alors il y a deux facettes à ce jugement. Le jugement est un jugement sur pièce, un dossier. Nous avons fait des mitzvot, nous avons fait des averot, et quand vous juge sur pièce. Mais il y a une autre dimension qui doit intervenir. Hachem accorde sa grâce. Et cette notion-là va être dévoilée par la manière que nous avons de nous tenir le jour de Rosh Hashanah. Quelle idée nous avons de notre destinée, de notre sort? Comment allons-nous adresser nos prières à Hachem? Dans quelle direction? Dans quelle idée? Dans quelle pensée? Avec quelle intention et concentration? Alors nous allons voir cela à travers un texte de la Gemara. Amar Rabbi Yitzhak, En danim et adam Rosh Hashanah et la lefi ma'asav shel ota sha'a. Rabbi Yitzhak nous dit, on ne juge l'homme à Rosh Hashanah que d'après ses actions, au moment, à l'instant donné. Ainsi qu'il est dit, comme il est dit, au sujet de Ishmael. Vaishma Hashem et Kolan, Arba Asher Usham. Hashem a entendu la voix de l'enfant comme il était là. Rashi explique que de quoi s'agit-il? Au sujet d'Ishmaël, il est dit que sa mère, l'eau, il n'avait plus d'eau. Donc elle a posé l'enfant sous un buisson. Elle est partie de l'autre côté et l'enfant a commencé à prier. Et Hashem a entendu la voix de l'enfant tel qu'il était, Ba'asher ou Sham, comme il était à ce moment-là. Rashi explique que bien que Hachem sache que cet homme se comportera mal dans le futur, il le sait, il ne le juge qu'en fonction de ses actions présentes. Comme pour Ishmaël, chassé de la maison d'Abraham, il était en train de mourir de soif dans le désert. En réponse aux lamentations de sa mère Agar, Dieu envoya un ange pour l'informer qu'il avait entendu la voix de l'enfant. Pas la voix de la mère, la voix de l'enfant, et ainsi il épargnerait. Le Midrash Bereshit Rabba rapporte à ce moment-là la protestation des anges devant Dieu. Ils dirent devant Akadosh Baruch Hu, celui dont les enfants allaient faire périr plus tard tes propres enfants par la soif, lors de la destruction du premier temple, tu lui fais apparaître un puits. Il leur répondit, à l'instant, à présent, comment est-il? Juste ou rachat? Tzadik ou rachat? Ils ont dit tzadik. Il leur dit, c'est comme ça. Je ne juge le monde que selon l'instant présent. Dans la même optique, Dieu nous juge à Rosh Hashanah selon notre situation du jour, sans tenir compte de ce que nous risquerions de faire comme mauvaises actions au cours de l'année à venir. Du commentaire de Rashi, il semble que Dieu ne tienne pas compte des mauvaises actions à venir uniquement, comme pour Ishmaël. Mais en fait, on pourrait expliquer l'enseignement de Rabbi Yitzhak pour les actions de l'année écoulée, puisque le jugement de Rosh Hashanah se rapporte à cela. Bien qu'elle n'était pas bonne, la situation à l'heure du jugement fait basculer dans le positif. La déduction ne se ferait que des mots utilisés dans le verset « Ba'asher Usham » et non pas du contexte. La question qui se pose, pourquoi et comment on aurait pu penser que le jugement tienne compte des actions à venir? De plus, le principe du jugement ne s'applique qu'aux actions passées, comme le dit Rambam au Perek 3 de l'Chot Teshuvah. Le Midrash Rabba rapporte le mot utilisé au sujet d'Ishmaël, il se livrait à des railleries, à Mesahek, des railleries. Et ce terme-là est appliqué aux trois transgressions capitales, à la Avodah Zara, aux relations interdites, à l'idolâtrie et au meurtre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Sarah demande à Abraham de chasser Ishmaël. Il ressort de ce midrash qu'Ishmaël est enfin un rachat. On aurait pu dire alors que Dieu le juge uniquement selon sa situation présente, sans tenir compte des fautes passées. Il faut comprendre pourquoi Rashi n'a pas choisi d'expliquer Rabbi Yitzhak, l'enseignement de Rabbi Yitzhak, de cette manière. Rabbi Léo Mizrahi, le Réhem, objecte. Les anges qui accusent Ishmaël auraient pu utiliser les fautes passées au lieu des fautes à venir. Pourquoi accuser Ishmaël de ce qu'ils vont faire, que ses enfants vont faire, alors que lui-même est rachat, puisqu'il a été chassé de la maison d'Abraham pour cette raison? Il est possible de dire qu'à ce moment, Ishmaël aurait fait tchouva. Mais ce n'est pas possible de le dire. Parce que ce n'est pas à cause de sa situation désespérée qu'il fait tchouva. Il est dit plus tard que Ishmaël demeura dans le désert et devient rovet cachet. Il tirait à l'arc. Et Rashi et Chachamim disent qu'il est devenu un brigand. Il attaquait les voyageurs. Donc il était rachat, il est resté rachat. De plus, cet enseignement de Rabbi Israël se rapporte à Rosh Hashanah, qui est le temps du jugement, et non pas celui du repentir. Le jour du repentir, c'est le jour de Kippour. Il est donc difficile de dire que le principe que l'on apprend d'Ishmaël, Ba'asher Usham, comme il est là, à l'instant présent, se rapporte au repentir, et qu'Ishmaël aurait fait Teshuvah. C'est pas possible de dire ça. Il semble évident que Rabbi Israël vient nous apprendre un chidouche, un enseignement nouveau, que nous n'aurions pas pu apprendre de nous-mêmes, et qui est fondamental pour comprendre le jugement de ce jour. De plus, il ne faut surtout pas penser que Rabbi Yitzhak vient donner un mérite quelconque à Ishmaël, chas v'shalom, ce qui serait une accusation sur Israël en ce jour. Alors que vient-on apprendre d'Ishmaël? Nos sages ont dit qu'Hachem a associé la bonté à la rigueur pour créer le monde. Tout le système de la création repose sur cette complémentarité entre le donneur et le receveur. La notion de donner est l'expression de la bonté. Elle sous-entend une notion d'infini. Celle du recevoir exprime une notion de limite. On ne reçoit que selon les capacités de receveur. Donc c'est la limite, c'est la rigueur. Ainsi Dieu crée l'homme et lui donne la vie. De cet homme est créée une femme. L'homme est passé de receveur à donneur. Puis la femme est au monde des enfants, elle passe de receveur à donneur. Les enfants veulent à leur tour fonder un foyer. Alors c'est pour ça que l'homme abandonne son père et sa mère, il s'unit à sa femme, ils deviendront une seule chair. Le mot abandonne est a priori un peu difficile, mais il aurait été suffisant d'utiliser le mot quitter. En fait, les enfants qui veulent fonder un foyer doivent abandonner la situation de receveur pour adopter celle du donneur. Cette règle est le fondement même de la création, recevoir puis donner. La raison de la création est l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Dieu donne la vie aux hommes dans cette intention. Un homme qui accomplit la Torah et les mitzvot est un donneur. Pourquoi? Parce qu'il permet à l'humanité de continuer son existence. Les maîtres dans le Talmud, Kiddushin, Dafmem, Amoud Alev disent « Le Olam iré Adam Asmo, Hatsi Zakai et Hatsi Hayab. » Un homme doit toujours se considérer comme étant à moitié coupable et à moitié méritant. À sa mitzvah, s'il accomplit une mitzvah, il a le bonheur d'avoir fait pencher le fléau de la balance du bon côté pour lui-même, mais pas seulement pour lui-même, mais aussi pour le monde entier. Il fait basculer le monde entier du bon côté. S'il commet une seule transgression, chas v'shalom, alors malheur à lui, car il a fait pencher pour lui le fléau du mauvais côté, mais aussi pour le monde. Il peut donc entraîner le monde à la destruction, chas v'shalom. De cet enseignement, nous avons une définition de ce qu'est une mitzvah et ce qui est une avéra. La mitzvah, cet enseignement donne une définition nouvelle de la mitzvah. Une action, la mitzvah est une action de vie. Celui qui accomplit une mitzvah accomplit un acte de générosité pour lui, mais pas seulement pour lui, pour l'humanité entière. Il s'inscrit alors lui et l'humanité dans le projet divin. Le Tikkuné HaZohar, nous, est fameux, très connu, qui dit que le mot mitzvah est en vérité, avec une transformation des lettres, on trouve le mot, le nom de Dieu, Yudke Vavke. Le même se transforme en Yod, et le Tzadik en He. Le Vav He existe déjà. Le mot, le nom de Dieu, Yud Kevke, est le nom de la vie. Donc en faisant une mitzvah, on s'attache à la vie et on apporte la vie sur terre. La transgression, à l'opposé, sera définie comme un acte d'égoïsme. Celui qui faute s'exclut de la vie et du nom de Dieu, pour lui-même ainsi que pour tous les autres. Il n'est venu au monde que pour s'en servir, pour en profiter. Il détruit la création. comme disent les sages dans les Maximes des Pères, celui qui faute détruit ce que Dieu a créé. Il est rapporté au nom de Chachamim une parabole au sujet du lac du Kénéret et la mer morte. Le lac de Kénéret est considéré comme vivant. Il porte le nom de la harpe de David, parce que tout ce qu'il reçoit, il le rend par l'intermédiaire du Jourdain. Alors que la mer morte, tout ce qu'elle reçoit, elle le garde. C'est pour cela qu'elle est appelée la mer morte. La mort, c'est garder ce qu'on possède, ne pas s'inscrire dans une chaîne de transmission. De même, le maître rapporte au nom de Rabbi Meir, dans le Midrash Kohelet Rabba, quand un enfant vient au monde, ses mains sont fermées, comme pour nous dire, regarde, Dieu vient au monde pour prendre. Quand un homme meurt, ses mains sont ouvertes pour nous dire, regarde, je n'ai rien emporté. Le Tikkun HaZohar, à la page 22, compare les fidèles qui prient à la synagogue le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour au chien qui aboie. Que dit-il? Avlan haye, avlan mezone. Il réclame la vie, il réclame le pardon, la parnassa, etc. Il ne pense qu'à donner. Il ne pense qu'à recevoir d'Hachem. Have. Et le terme have, qui veut dire donne, fait allusion au l'aboiement du chien. Le texte du Zohar est très dur. Comparer les fidèles à des chiens, parce que le mot donner, en araméen, se dit have. Quand il est répété à plusieurs reprises, il ressemble aux aboiements des chiens. Pourquoi les chiens? Les chiens symbolisent ici l'égoïsme. Le verset rapporte qu'à la sortie d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé. Que veut nous enseigner la Torah? Quel intérêt y a-t-il à savoir que les chiens n'ont pas aboyé? Le sens profond de cet enseignement est le suivant. La sortie d'Égypte est le dévoilement du projet divin, la raison de la création. La puissance de Dieu s'accomplit pour que Israël reçoive la Torah. À cet instant, même les chiens qui symbolisent l'égoïsme se sont tus. Ils se sont annulés devant l'immensité de la volonté de Dieu. Le Zohar nous reproche de faire les mitzvot et la prière pour notre propre intérêt. Même si c'est pour obtenir le monde futur, cela reste un acte intéressé, donc égoïste. Le Messilat Yesharim, au chapitre 19, qualifie celui qui accomplit les mitzvot pour se parfaire et se purifier afin d'hériter le monde futur comme étant une intention qui ne peut être qualifiée de mauvaise, mais pas non plus de très bonne. Le jour de Rosh Hashanah, Dieu juge l'humanité sur ses actions de l'année écoulée pour fixer et distribuer les moyens d'accomplir ce que lui a décrété pour l'année à venir. Si nous demandons ces moyens, ces kelim, pour nous, nous réduisons le projet divin à notre petite personne. Il y a un intérêt grandiose qui dépasse les individus et leur étroitesse d'esprit, leur petit monde. Il y a ce jour la grandeur du projet divin, la gloire du Créateur et son honneur. C'est pour cela que Dieu a créé le monde, pour sa gloire. Il s'agit de, au jour de Rosh Hashanah, de s'inscrire dans ce que Dieu désire et désire accomplir. Et nous voulons, est-ce que nous voulons être au service de Dieu pour accomplir le travail qu'il y a à faire? La démarche qui est recommandée est celle de l'annulation complète de sa propre volonté à la volonté du Créateur. Mon Dieu, je ne me demande rien pour moi, que ta volonté se réalise et que je puisse y participer. L'essentiel du texte des prières du jour redoutable de Rosh Hashanah et de Kippour ne contient pratiquement que la proclamation de la royauté divine, que sa puissance se dévoile. La place de l'individu dans la prière est totalement réduite, comme le dit Nefesh Ahayim au deuxième portique. Revenons à la prière d'Ishmaël. Nous avons déjà dit qu'en fait, il n'était pas tzadik au sens habituel du terme, puisqu'il avait transgressé les fautes graves. Alors pourquoi en est-il qualifié par Dieu lui-même? Ishmaël se représente comme étant l'héritier spirituel d'Abraham. Dans sa situation désespérée, il prie pour être sauvé. Non pas pour lui, en tant qu'individu, mais pour les enfants qui doivent sortir de lui, pour continuer le chemin tracé par Abraham, selon sa théorie à lui. Il s'annule devant ses enfants, devant sa descendance, devant l'intérêt général. Dans sa conception des choses, l'individu ne compte pas, il doit servir la cause. Les anges accusent Ishmaël par des actions que ses enfants vont faire aux enfants d'Israël, aux enfants d'Hachem, qui, eux, ont une mission à remplir, celle de faire la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'ils accusent sur le futur, pas sur le passé. Les maîtres de la Kabbalah ont dit qu'Ishmaël est lié à la bonté de l'écorce, Hesed des Klippas, car cette bonté ne se fait que dans son espèce, comme les maîtres l'ont dit au sujet de la cigogne qui est appelée Hasida, qui est un oiseau impur, interdit à la consommation. Elle le fait de bien qu'avec son espèce. Chez Esav, la conception est à l'opposé. La société est au service de l'individu. Il est au centre du système. L'homme est sur terre pour prendre. C'est la rigueur de l'écorce. Givura des Klippas. Il n'applique pas la rigueur sur lui-même, mais sur les autres. C'est-à-dire, le système est à mon service. La conception de la Torah est le chemin du milieu. L'harmonie entre l'intérêt général et celui de l'individu. Les consonnes s'écrivent en hébreu de gauche à droite. Les lettres s'écrivent de gauche à droite. La gauche, quand on commence à dessiner une lettre sur le Sefer Torah, on n'écrit pas de droite à gauche. Chaque lettre est écrite, on commence à dessiner la lettre en allant de la gauche vers la droite, pas de droite à gauche. La droite symbolise la bonté, la gauche la rigueur. Quand chaque lettre est prise seule, alors elle va de la gauche, de la rigueur, et repousse la bonté. Mais quand la lettre s'inscrit dans le mot et le mot dans la phrase, la lecture se fait de droite à gauche. Le texte, lui, est lu de droite à gauche. La bonté s'étend pour repousser la rigueur, c'est la force du groupe. Le tzaddik est celui qui est au service des autres, qui ressent dans sa chair la douleur et la souffrance de ses semblables. Il prie pour leur guérison et pour leur bien-être. Il les protège par son mérite. C'est le sens du mot que Rabbi Yitzhak veut nous apprendre. Il faut ressembler au tzaddik, surtout le jour de Rosh Hashanah. C'est uniquement cette attitude qui peut faire pencher le fléau de la balance et nous inscrire dans la vie. Si nous dévoilons ce jour notre véritable nature, nous sommes, quoi en fait, des êtres généreux. Notre volonté est entièrement au service de Dieu. C'est vrai que nous avons fait des fautes. C'est vrai que nous fautons et que nous fauterons. Mais au fond, essentiellement, que sommes-nous ? Sommes-nous des êtres égoïstes qui ne pensons qu'à nous-mêmes ? Quand nous prions, est-ce que nous prions pour nous ? Ou nous prions pour l'ensemble des gens ? L'ensemble des malades ? Est-ce que nous prions pour la gloire de Dieu ? Ou pour notre intérêt propre. Nous pouvons faire des mitzvot qui seront à ce moment-là par intérêt. Alors, ils seront considérés comme étant des actes égoïstes. C'est-à-dire que la mitzvah peut être basculée dans le côté négatif. Même la mitzvah. Pour qu'une mitzvah soit de valeur positive, elle doit être faite dans l'intention de générosité. Nos maîtres dans Brachot disent, au sujet de Hana, elle a lancé des paroles vers le haut. Quand Hana prie pour avoir un enfant, elle lance des paroles vers le haut. C'est-à-dire qu'elle s'est adressée à Hachem de manière irrespectueuse. Comme il est dit, elle prie à contre Hachem. Le Nefesh HaRaim explique que bien que Hana souffrait énormément de sa situation, dans sa prière, elle ne se met pas en avant. Elle ne met pas en avant sa propre souffrance, mais celle de Dieu qui souffre de voir ses créatures dans la peine et la difficulté. De maître, nos maîtres, on dit, dans Brachot 63, quiconque associe le nom des cieux à sa détresse, on lui double sa subsistance. C'est pour cela que la prière de Hana a été exaucée. En conclusion, bien que pendant le courant de l'année, nous faisions malheureusement de nombreuses fautes, et que nos mitzvot ne sont pas suffisantes, le jour de Rosh Hashanah, si nous prions et demandons, non pas pour nous, comme des égoïstes, comme des chiens qui aboient, mais uniquement pour l'honneur et la gloire du nom de Dieu, pour la réparation des mondes, pour que sa volonté se fasse. Nous voulons nous inscrire dans le projet divin, nous voulons être à son service, nous voulons être ceux qui vont accomplir le travail que Hachem a destiné, le projet divin pour l'année à venir. Alors nous montrons alors que nous sommes désireux d'être au service de ce projet, au service d'Hachem, au service de la vie qui doit se perpétuer en ce monde. Alors nous montrons par là que nous sommes véritablement des êtres généreux. C'est le sens de la mitzvah. Alors, même si nous avons fait plus de Averot que de mitzvot, cette attitude-là, Ba'asher Ushan, de générosité que nous dévoilons au moment du jugement, fait basculer véritablement le jugement. Nous serons alors considérés comme étant des êtres de générosité, des gens généreux qui agissent pour les autres, pour l'intérêt général. Et à ce moment-là, la grâce nous sera accordée. La grâce est accordée à ceux véritablement qui ne méritent pas d'être graciés. Mais Hachem entend, voit leur démarche. On a su prier Hachem de telle sorte qu'il a su nous accorder, sans que nous le méritions, la grâce. Et c'est de cette manière qu'il faut prier. Ne pas prier de manière égoïste, comme dans tout l'accomplissement des mitzvot, ne pas faire les mitzvot par intérêt, comme disent tous les maîtres. Faire les mitzvot juste pour accomplir la mitzvah, pour satisfaire Hachem. Avoir une pensée de pureté, de désintéressement, et de s'inscrire dans le projet divin. Et c'est cela exactement, s'inscrire dans la vie, dans le livre de la vie. Il rassemble qu'Akadosh Baruch Hu inscrive chacun dans ce livre de l'éternité. La vie éternelle, la vie qui continue, la vie qui s'inscrit dans la Torah et les mitzvot. Et alors, il nous octroiera chacun des bénédictions sans fin, comme il est dit. Hachem ouvrira pour vous ses réservoirs de bien, de bonté, et déversera sur vous des bénédictions sans fin, jusqu'à que vos lèvres s'usent en disant, « Maître du monde, c'est suffisant, c'est suffisant. »« Amen et Amen. »